Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Rentrée scolaire sous tension ce lundi pour les écoliers, collégiens et lycéens de France, avec des mesures anti-Covid-19 plus strictes dans le cadre du confinement du pays, avec une sécurité renforcée après les attentats de Nice et Conflans-Sainte-Honorine, et puis un hommage aujourd'hui, hommage au professeur assassiné il y a 2 semaines, Samuel Paty, de la difficulté d'en parler avec les élèves, vous l'entendrez en début de journal. Nous nous pencherons ensuite sur les indicateurs de la deuxième vague de Covid-19. Elle pourrait bien être plus forte qu'au printemps dernier, vous le comprendrez. Tour d'Europe ensuite, des pays qui reconfinent en plus de la France dans l'Union européenne et des mesures choisies, elles ne sont pas toutes pareilles. Et puis nous rejoindrons l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis avant la présidentielle en Caroline du Sud. Parallèlement à la bataille pour la présidentielle, des sièges de sénateurs se disputent également. Les démocrates pourraient devancer les républicains. Une minute de silence dans tous les établissements scolaires ce lundi. Jour de rentrée après la Toussaint, jour d'hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné juste avant les vacances, il y a 2 semaines, par un terroriste dans les Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine, près de son collège. Comment les enseignants vont-ils échanger à ce propos aujourd'hui? Un temps de discussion était initialement prévu ce matin, finalement non obligatoire. Il pourra être fait tout ce mois-ci, ce mois de novembre. Une décision, un report que le corps enseignant ne comprend pas, Hakim Kasmi.
Pour Delphine, professeure d'histoire-géographie en région parisienne, pas question d'attendre plusieurs jours pour mettre en place le temps pédagogique prévu avec ses élèves. Elle s'est donc préparée pendant toutes les vacances.
J'ai travaillé à partir des textes proposés par le ministère et je vais préparer un diaporama avec différents supports, à la fois des petites vidéos pour rappeler ce qu'est la liberté d'expression, par exemple la laïcité, mais aussi des caricatures et des réactions dans la presse par rapport à l'assassinat de Samuel Paty, de manière à avoir quelque chose de complet.
Quant à l'étude des caricatures, et ce quelles qu'elles soient, il est important de maintenir leurs enseignements à l'école, estime la professeure.
Depuis toujours, on étudie des caricatures en histoire-géographie, mais aussi en lettres. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en français, ils utilisent également beaucoup les caricatures, quand ils parlent par exemple des intellectuels, ou bien encore de la littérature engagée, où ils mettent des documents annexes pour illustrer leurs cours. Alors après, peu importe les caricatures choisies, hein, il y en a beaucoup qui existent, pas que celle de Charlie Hebdo, ou pas que celle montrée par Samuel Paty, mais un panel montrant ce que l'on peut dire à partir d'une caricature, et puis expliquant aussi pourquoi les caricatures avaient autant d'importance, par exemple sous la Troisième République, où la population devenait une population sachant lire, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Selon un sondage IFOP, 38% des enseignants s'autocensurent en n'abordant pas en classe certains sujets pour éviter les incidents. Un chiffre qui atteint même les 50% en zone d'éducation prioritaire. Dans un courrier envoyé vendredi aux enseignants, Jean-Michel Blanquer leur demande de signaler au rectorat le moindre incident qui pourrait survenir durant la minute d'hommage en la mémoire de Samuel Paty.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui sera ce matin à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines aux côtés du Premier ministre Jean Castex. C'était donc Hakim Kasmi à l'aube de cette journée que Radio France soutient, journée pour l'enseignement, pour l'éducation. Journée spéciale d'ailleurs sur France Culture. Guillaume Erner recevra des invités à ce propos, philosophe, à partir de 7h40 ce matin. Autre particularité de cette rentrée scolaire, le Covid-19 toujours présent. Les élèves porteront le masque dès 6 ans désormais. Il sera obligatoire dès l'âge de 6 ans, rentrée surveillée à cause, on l'a entendu, de la menace terroriste et donc à cause de la menace sanitaire. Les modélisateurs de l'épidémie préviennent déjà la deuxième vague de Covid-19 en ce moment et dans les semaines qui viennent sera plus haute que la première du printemps dernier. Les besoins en lits de réanimation s'annoncent énormes et les 2 semaines à venir difficiles, Sophie Bécherel.
Au premier pic de l'épidémie, il y a eu jusqu'à 7000 personnes en réanimation. Au pic de la deuxième vague, attendue entre le 9 et le 15 novembre, les projections sont plus pessimistes, avec 9000 lits de réanimation nécessaires. Pourquoi? Parce qu'à la veille du confinement, le nombre de personnes contaminées est plus important. Parmi elles, environ 3% vont se retrouver à l'hôpital avec une forme grave, et cela avec un décalage dans le temps de 10 à 15 jours. C'est le temps qui s'écoule entre l'incubation et les complications quand il y en a. Actuellement, il y a déjà 3 fois plus de personnes en réanimation qu'en mars, au début du premier confinement, la déprogrammation d'autres opérations n'est plus une option, pas plus que la nécessité de trier entre des cas graves, une pratique qui certes existe dans le milieu hospitalier, mais dont le poids moral est lourd. Plus forte, cette vague sera-t-elle aussi plus longue pour diviser par 9 ou 10 le nombre de contaminations et atteindre l'objectif des 5000 par jour, comme l'a évoqué le président de la République, il faudra minimum 2 mois et encore, cela dépendra de l'impact de ce confinement moins restrictif. Le couvre-feu ne semble pas avoir eu d'effet majeur sur les chaînes de transmission puisqu'hier, la France enregistrait plus de 46 000 nouveaux cas, un chiffre très haut.
Et après le couvre-feu, c'est donc le reconfinement qui devient la règle dans le pays. Il est en vigueur depuis jeudi soir dernier, mais peut-être vraiment effectif à partir de ce matin, puisque c'est le retour des vacances, donc fin de la tolérance. Les grandes surfaces devront fermer leurs rayons non essentiels à partir de demain. Voici ce qu'annonce en plus Jean Castex. Le Premier ministre ne veut en cela pas faire de tort aux petits commerces qui, eux, sont obligés de fermer s'ils ne vendent pas de nourriture ou de produits informatiques. La Fédération de la Grande Distribution fait part de sa totale incompréhension. Cette colère touche d'ailleurs d'autres pays en Europe car les règles sanitaires se durcissent un peu partout. Le nombre de cas enregistrés dans l'Union européenne a bondi de 41% en une semaine, représentant la moitié des cas signalés ces 7 derniers jours dans le monde. Les annonces de reconfinement s'enchaînent en Europe les unes après les autres, Eric Biegala.
Après la France, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un reconfinement total à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre. En Autriche, un second confinement national sera mis en place à compter de mardi prochain et jusqu'à fin novembre, déclarait également le chancelier Sébastien Kurz. Ailleurs, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, on parle de semi-confinement, couvre-feu sur tout ou partie des territoires, fermeture des commerces autres qu'alimentaires ou institutions accueillant du public. En Grèce et au Portugal, des reconfinements partiels ont été édictés sur des zones précises, confinement d'un mois à Athènes et dans les autres grandes villes grecques, à partir de mardi. Au Portugal, les mesures de reconfinement sur les 3 régions nord du pays seront étendues à partir de mercredi prochain aux 2/3 de la population portugaise. La Suède, une fois de plus, fait cavalier seul. Pas de confinement, même partiel. Télétravail et distanciation sociale restent seulement conseillés. Conseil d'ailleurs assez bien suivi. Mais pour le moment, commerce, bar ou restaurant suédois restent ouverts et le port du masque n'est même pas encore officiellement recommandé.
Eric Biegala pour France Culture et nous nous pencherons plus particulièrement dans moins de 10 minutes à 6h45 dans les enjeux internationaux sur la situation en Allemagne, le fédéralisme à l'épreuve du confinement, enjeu présenté par Julie Gacon. Il y a très peu de masques par ailleurs en ce moment outre-Atlantique dans les réunions publiques de Donald Trump. Dernier meeting pour le président sortant et pour son rival démocrate Joe Biden. La présidentielle aux États-Unis a lieu dans 2 jours. Une élection pendant laquelle se joue aussi la bataille du Sénat. Aujourd'hui contrôlée par les républicains avec 53 sièges sur 100, il pourrait basculer du côté des démocrates. 1/3 des sièges sont en tout cas en jeu. Exemple en Caroline du Sud, un état pourtant républicain, connu pour son passé esclavagiste. Franck Madvon est sur place.
Des voitures fatiguées devant des maisons de plein pied en triste état, nous sommes dans le quartier noir de la petite ville de Dillon. Ici, bien souvent, on ne vote pas, on veut d'abord boucler les fins de mois, ou on vote démocrate. Joe Biden, donc, et Jamie Harrison, le candidat afro-américain au Sénat, qui pourrait faire tomber l'expérimenté Lindsey Graham, proche de Trump.
Jamie Harrison,
je l'aime bien, dit Joe. Les autres mentent. Harrison, ça fait longtemps qu'il connaît cet état. Je le respecte. Il peut changer beaucoup de choses en Caroline du Sud. À quelques blocs de là, des fidèles se retrouvent près d'une église, avant l'office. Uniquement des blancs, beaucoup d'agriculteurs. L'Amérique chrétienne et républicaine de Caroline du Sud. Gary, au volant de son pick-up, votera Lindsey Graham.
C'est un conservateur. Si vous voulez travailler et qu'on respecte vos libertés religieuses, faut voter Lindsey Graham et Donald Trump, 100% républicain.
John se gare à son tour. Fort accent du Sud. Il s'étonne moins de la popularité de Jamie Harrison que de l'argent dont il dispose. Je ne peux pas allumer la télé sans tomber sur une de ses pubs. Harrison est financé par des démocrates qui rêvent de faire tomber le vétéran Lindsey Graham. Issu d'un milieu pauvre, il peut créer l'une des plus grandes surprises des élections.
Élection prévue donc dans la nuit de mardi à mercredi. On votait hier en Algérie pour là un référendum sur la nouvelle constitution. Et le taux de participation est historiquement bas, 23,7% seulement. gouvernement. Une abstention record, seul véritable enjeu du vote boycotté par l'opposition et qui constitue un revers cinglant pour son initiateur, le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le régime est confronté depuis plus de 2 ans et demi maintenant à un soulèvement populaire inédit, le Hirak. Nous y reviendrons dans le prochain journal sur France Culture à 7h. Pour le temps de ce lundi, notez l'arrivée d'averses par le nord et l'ouest. Elles rejoindront le centre et la Bourgogne dans l'après-midi, laissant place à un beau soleil sur la Bretagne en fin de journée. Au sud de la Loire, temps plus lumineux au contraire ce matin. Comptez d'ailleurs 16 degrés à Nice, 11 à Biarritz, 9 degrés à Bordeaux et 8 à Paris.